Nous allons essayer de trouver les pannes d'électricité. Il était une fois un monsieur qui s'appelait Dr. Deepu. Deepu,
ouais.
C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin.
La fin de la chaleur. La fin de Ramadan.
La fin de l'année scolaire. À quand la fin des identitaires? La fin de Blabla Mix?
Non, pas la fin de Blabla Mix. La fin avant l'été, avant vacances, mais après la vacances, on va continuer.
Nous sommes là, 36, dans le studio, pour le numéro 36, 1936, le Front Populaire. Tu connais Deepu?
Non.
C'est populaire, c'est le Front. Je te présente Fréhel, qui avait un front. Populaire. Music.
Près de Paris, au bord de la Seine, sont des endroits où l'on se promène. On met ses beaux atours, faut être chic quand viennent les beaux jours. Et puis peut-on jamais savoir ce qui se passera le soir? En se baladant, on voit une guinguette. Dans la semaine, les rouliers s'arrêtent. On y entend un orchestre poussif, un accordéon plein tif. C'est un petit balmusette, c'est un très gentil cabelot, où danse les midinettes, chaque dimanche au bord de l'eau. Un vieux saxo nostalgique, soupire encore une java, et toujours sur cette musique, on tourne un petit pas, on se balance sur l'escarpolette, et ça fait crier les fillettes, dans le petit bal musette, dans le très gentil cabelot, un peu partout l'amour guette, on est si bien au bord de l'eau, toute la journée les gars les fillettes, boivent en dansant des tas de canettes. Comme le soleil est chaud, de jolis petits coins de peau se font voir soudain sans pudeur. Pardon, c'est la chaleur. Sous la tonnelle, on voit la patronne. C'est sans mentir une jolie personne qui, loin des yeux de son mari jaloux, au violon donne rendez-vous. C'est un petit bal musette. Les gentils cabelots, où dansent les midinettes, chaque dimanche au bord de l'eau, on accompagne les danses d'un refrain qui vient des faubourgs, et l'on transpire en cadence. Tout ça, c'est la faute à l'amour, sous l'œil d'un agent redoutable. On peut se viser à chaque table, dans le petit bal musette, dans le très gentil cabelot. Dans tous les coins, l'amour guette, on est si bien au bord de l'eau. Sous l'œil d'un agent redoutable, le petit Balmusette. Dans de très gentils cabelots, dans tous les coins, la mourguette. On est si bien au bord de l'eau.
Vous êtes...
C'est Blabla Mix.
Il fait chaud.
15:05.
Oui, oh, oh. Blabla words.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Bonnie. Bonjour.
Bonjour.
Comment on dit bonjour dans ta langue?
Midway.
Midway.
La langue, c'est le
Kinyarwanda.
Kinyarwanda.
Santé.
Uzima.
Uzima.
Dialyse.
Kuvurwa.
Kuvurwa.
Rein.
Impsiko.
Impsiko. Création d'un brassard.
Gukora umushinga.
Gukora umushinga.
Non, c'est pas ça, c'est gukora umushinga.
Gukora umushinga.
Stress.
Kugira ubwoba.
Kugira ubwoba.
Inspire.
Gutanga imbaraga.
Gutanga imbaraga.
Sucre.
Isukari.
Isukari.
Merci Bonnie. Merci.
Murakoze.
Murakoze.
Paul, comment on dit merci?
Voilà, poésie.
Bla bla bla, habité.
Il était une fois une soirée qui se déroulait hier on the roof on the top. Et donc c'était une soirée organisée par Singa, qui est un de nos partenaires dans lequel nous puisons l'humanité. Dipou, pour la première fois de ta vie, tu es passé sur scène devant 150 personnes pour faire de la radio en direct avec Schumann. Comment ça s'est passé?
Oui, ça passe très bien, mais d'abord c'était très nerveux pour moi, difficile. C'est beaucoup de travail, oui, mais je pensais que je n'étais pas dans moi. J'étais quelqu'un d'autre personne. Tu vois,
oui.
Je me suis senti que j'étais pas de moi, il y a quelqu'un qui vient de moi et il parle, pas moi.
D'accord. Tu t'es vu?
Pardon?
Est-ce que Dipou a vu Dipou?
Je sais pas.
Et comment s'exprimait ton stress?
Moi, oui. Parce qu'on a fait l'échauffement et. Beaucoup de choses. Mais...
Et c'était bien.
C'est très bien. Oui.
Et pourtant, alors tu as oublié une phrase.
Oui, j'ai oublié quelque chose de Schumann. Oui.
Ah bah, c'est sympathique. Est-ce que tu peux nous dire cette phrase?
Oui, oui. Schumann, il est technicien de notre Blabla Mix. Il fait de la première fois de sa vie, mais il fait très beau.
Il est très bon.
Oui.
Tu as oublié de dire ça, c'est ouais. Quand même... c'est salaud, c'est dégueulasse. Schumann, est-ce que
merci
tu...
Merci Schumann.
Et alors toi, tu as fait du théâtre, Schumann. Donc tu envoyais les sons, tu étais technicien. Ouais. Et puis soudain, tu as dit une phrase que tu vas nous dire. Deux phrases même. Allez, vas-y, on t'écoute.
Pèse de quoi?
Tu peux nous raconter une histoire drôle?
Ouais. Pas mal... Jodie, c'est ça, maintenant?
Oui, maintenant, tu vas nous raconter l'histoire drôle avec la petite femme.
Parce que dernière mission, Jodie, c'est ça.
Ah, d'accord.
Ouais,
Schumann, il veut jamais dire. Il croit que les auditeurs, c'est toujours les mêmes. Adieu, Schumann. Tu ne me manqueras pas. Et Bonnie, toi aussi, Bonnie, tu as dit un texte, alors là, très très fort, tu vas même nous en faire un extrait. Et je t'en remercie. Comment tu as vécu le fait de passer sur scène dans un lieu, un nightclub à la mode devant 150 personnes, voire 200, on ne sait pas. C'était facile?
C'était un peu difficile au début parce que j'ai jamais fait ça dans ma vie. Mais puisque j'avais ma super coach Anaëlle au premier an, du coup ça m'a donné la confiance que j'avais besoin pour pas pouvoir dire mon texte et le présenter comme je pouvais le faire.
Anaëlle, bonjour.
Bonjour.
Comment, puisque tu es la super coach de Bonnie,
apparemment,
comment tu as trouvé sa prestation?
Alors, déjà, faut dire que Bonnie, elle s'est beaucoup entraînée avant la soirée. On a beaucoup travaillé ensemble, donc son texte, elle le connaissait vraiment par cœur. Et du coup, pendant la soirée, moi je l'ai trouvé juste fantastique, il n'y a pas eu une seule erreur et toujours vrai et authentique, voilà.
Et vous qui n'étiez pas là, eh bien Bonnie est d'accord pour vous faire un extrait de sa vie, de son texte, moment privilégié.
Je viens d'un petit pays troublé par son histoire de détrubis qui s'entretient constamment pour le pouvoir. Et la chose la plus triste, juste pour moi, est que je suis un mélange de dés. Et cela m'a fait perdre une tonne de membres de famille et certains d'entre eux devant mes yeux. Tout ce qui va avec une perte de vie provoque une peur. Et à chaque fois que je faisais face à la mort, ma peur a évolué et sans que je le constate, j'avais développé des phobies importantes, notamment la phobie du sang. On dit souvent qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, mais je vous dis, quand vous lui faites face, vous avez vraiment peur. Pas peur de mourir parce qu'on sait qu'on mourra un jour, mais le fait que vous n'existerez plus et que les personnes qui vous aiment ne vous le verront plus jamais.
Merci, Bonnie.
Merci.
Voilà, hier soir, c'était comme ça, c'était comme si. Et Bonnie, maintenant, nous avons, surtout toi, monté un projet, une entreprise pratiquement. Tu étais déjà venue nous en parler, mais est-ce que tu peux rappeler, décrire un petit peu aux auditeurs ce projet, l'objet et à quoi ça sert?
L'entreprise, comme on peut dire, que j'ai faite, c'est suite à mon expérience personnelle avec le traitement d'insuffisance rénale que je souffre. On a besoin d'un point d'accès au traitement qui s'appelle la fistule. Et elle est très vitale parce que si on l'a pas, on peut pas se faire dialyser. Et après, on peut mourir. Et du coup, une fois, j'ai eu un accident à la maison. Mon poing s'est ouvert et j'ai saigné. Et je me suis rendu compte que je peux perdre ma vie dans moins de 30 minutes. Et je me suis dit, comment je vais faire pour protéger ma fistule? Et j'ai créé un brassard qui est...
Donc va un brassard, servir, vraiment un brassard.
Oui, qui va servir de protection pour la fistule. Normalement, ça dépend. Des fois, la fistule est à l'avant-bras ou le bras.
Mais Bonnie, tu es infirmière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une fistule?
Une fistule, c'est une création entre une artère et une veine qu'on met ensemble pour avoir un apport de sang assez pour dialyser dans 4 heures. Dans le corps, on a 5 litres de sang. Donc, pour qu'on puisse traiter tout le sang dans un peu de temps.
Mm-hmm. 5 litres de sang, c'est tout? Dipou, oui. Tu n'as que 5 litres de sang. 5 litres, le sang, blood. 5 litres.
Oui, oui, 5 litres, oui.
Yeah, tu savais ça. Et moi, je sais que la tête fait 4 kilos. Donc en effet, ce brassard est indispensable pour la santé, pour protéger. Et comment ça se fait que ça n'existe pas si c'est indispensable?
Quand on vous crée la fistule, on vous demande de la protéger, notamment ne pas porter des habits serrés, ne pas laisser prendre des plis de sang sur le bras. Donc il faut la protéger parce qu'elle est juste sous la peau. Et une petite chose peut la faire blesser et saigner facilement. Mais après, on nous entraîne comment contrôler les saignements. Sauf que moi qui a la phobie du sang, c'était difficile quand ça m'est arrivé. Mmh. Et donc, je me suis dit, pour les personnes qui sont plus âgées, qui ne peuvent pas tenir les poings, ça, la personne peut perdre la vie facilement.
Alors, en plus de ce côté absolument indispensable et nécessaire, c'est également un accessoire de mode. Anaël, est-ce que tu peux décrire le brassard de Bonnie hier soir ? Elle était donc une vraie princesse sur une scène.
Oui, donc le brassard était assorti à sa magnifique robe en wax brillante dorée qui a été confectionnée par une bénévole de Singa qui est Esther. Et voilà, et du coup le brassard était assorti à la robe et du coup le but aussi de Bonnie, c'est de pouvoir personnaliser les brassards au goût des patients. Voilà.
Et alors Anaëlle, coach, super coach, un petit point sur le bilan d'entreprise. Nous sommes en fin d'année. Comment s'appelle ce brassard? Comment va-t-on pouvoir se le procurer? Où en êtes-vous de ce projet économique? Pour conclure, CAC 40, entrée en bourse.
Alors, l'entreprise n'est pas encore créée. On est encore, Bonnie recherche encore les tissus les plus adéquats pour créer le brassard. Donc, elle est en contact avec des spécialistes pour concevoir les tissus les plus adaptés. Et après, on pourra envisager du coup de produire pour les vendre.
Avec un investisseur ou pas? Oui. Ou une investisseuse?
Oui, dans quelques mois, on va y réfléchir.
D'ailleurs, dans investisseuse, il y a tisseuse. Bonnie, au mois d'août, au Rwanda, c'est les élections. Tu le savais?
Oui.
J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis. Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais et resterai moi.
T'es de droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme? Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel? Mécréant ou terroriste? T'es vleuche ou bien t'es barbu? Conspirationniste, illuminati? Mythomaniste ou vendu? Rien du tout ou tout de suite? Du tout au tout, indécis. Hein, tu changes d'avis, imbécile. Mais t'es où tout si? Flamand ou wallon? Bras ballant ou bras long? Finalement t'es raciste? Mais t'es blanc ou bien t'es marron? Hein? Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être franchouille. Faut être bien vous partout, hein. Le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre, je suis. J'étais et reste.
suis, j'étais.
Sébastien Stromae.
Salut.
Salut.
Je peux rester avec vous, princesse?
Bien sûr.
Vous voulez boire quelque chose?
Oui, je voudrais de la bière.
Une bière, s'il vous plaît. Vous avez quel âge?
25 ans. Et toi?
Moi, 26.
En fait, la couleur rouge te va très bien.
Ah, merci. Vous êtes très belle.
Merci.
Qu'est-ce que dans la vie?
Qu'est-ce que
tu fais dans la vie?
Je suis étudiante à l'université. Et toi?
Quel domaine?
Traduction.
10,50 euros, s'il vous plaît.
Désolé. Ah, super. Et moi, je suis demandeur d'asile.
Quoi?
Demandeur d'asile.
Je n'ai pas bien entendu.
Je suis demandeur d'asile.
En fait, merci pour la pierre, mais je suis très fatiguée. Et c'est déjà trop tard, je dois partir.
Ah bon?
Merci.
Ok. Je suis triste.
Bravo. Dan, tu as écrit ta première pièce de théâtre.
Oui.
Est-ce que c'est du vécu?
Oui. Parfois, oui. Elles comprennent moi, je suis demandeur d'asile. Elles quittaient. Pas de raison.
C'est ça. Du coup, il vaut peut-être mieux dire que tu es président, directeur général.
Oui. Non, parce que moi, je ne sais pas pour mentir.
C'est vrai.
C'est ça.
Et ton prénom, d'ailleurs, c'est quoi?
Ramadan. Mais ça, c'est difficile un peu pour moi, parce que quand je présentais Ramadan, les autres, ils mal compris. Et lui, il est très religieux, c'est comme ça, mais c'est pas ça.
Pourtant, il y a des Français qui s'appellent Noël. c'est vrai.
Christian, mais je pense, par exemple, j'ai rencontré une femme grecque. Elle m'a dit, tu donnais mon nom et pronom et tu m'as ajouté dans le Facebook. Ah ok, d'accord. Et si regarde Ramadan Boujlani, elle n'accepte pas. Mais ici, le français mal prononcé mon prénom, parce que Ramadan, et mon prénom Ramadan. Mm-hmm. Ramadan, il y a un nom héroïque un peu pour le Kosovo. Et ça, mais au Kosovo, c'est pas problème si tu apprends un prénom Christian, Christ, comme ça, Ramadan, Mohamed, ça fait rien. Mais ici, il y a un problème.
Ici, il vaut mieux s'appeler, oui, Christian.
Un peu diplomatique, comme ça. Mais... Et beaucoup de Français, elle m'a cherché pour changer mon prénom.
Parce que tu es conseiller
parce que tu es une écrivain, tu es une autorité académique, et ça ne va pas ton prénom.
Et Rita, toi tu t'appelles Rita,
oui.
Déjà, tu es syrienne. Est-ce que des hommes, quand tu as dit que tu étais syrienne, est-ce que des hommes sont partis et t'ont laissé bonne soirée, je suis fatiguée, j'ai ma migraine, Rita?
Non, franchement, ça, non, c'est pas déjà passé. Peut-être pour les filles, c'est un peu différent. Pour les filles, les hommes, ils s'en foutent. Syriennes, Libanais, je sais pas. Mais pour les hommes, c'est différent. Oui. Mais quand je dis je suis syrienne, comment s'est passé en Syrie, comment tu étais capable de quitter le pays, est-ce que ta famille mange bien, est-ce qu'elles vont bien là-bas? Non, en fait, elles ont faim, très faim.
comme au Bangladesh.
Comme Schumann.
Comme Schumann. Une petite fille qui avait dit à Schumann, ah, tu es du Bangladesh, mais tu manges là-bas. Et Paul, est-ce qu'il y a une fille qui t'a déjà draguée à la récréation? Et quand tu dis que tu t'appelles Paul, est-ce qu'elle s'en va très loin? Est-ce que tu as déjà eu une fille qui t'a fait des avances, qui t'a dit?
Non.
Non? Pas encore. Est-ce que tu dis que tu habites à la Croix-Rousse? Et est-ce que c'est un problème pour les gens de la Presqu'île?
Non.
Et quel est ton rêve, Paul, dans la vie? c'est un beau rêve.
Qu'est-ce que tu penses pour Macron?
Parce qu'il a une politique.
Pour l'instant, il n'est pas encore très chaud, mais sachez que Paul a des idées et surtout une vision du monde qui est très intéressante. Dipou, est-ce que tu as eu un problème de vérification, comment dirais-je, est-ce que c'est difficile de draguer une femme? Parce que je... Voilà, bref, c'est la fin de ma question.
Non. Pas du tout.
Pas du tout? Tu as du succès?
Oui.
Ah, mais on ne savait pas! Extraordinaire. Peggy, tu n'es pas encore au micro, donc tu ne peux pas nous raconter si c'est difficile d'être noire et d'avoir du succès. Ah, le micro s'est approché. Alors Peggy, est-ce que les blancs t'aiment? Et est-ce que toi, tu aimes les blancs?
Ouais, oui. Je peux dire que j'aime les blancs, oui, mais bon. quand je marche dans la rue, oui, il y a certaines personnes, certains hommes blancs qui me parlent, mais bon, je ne suis pas trop intéressée. Voilà.
Quel genre? Oui, ils te disent quoi?
Ben, ils veulent d'abord avoir mon numéro. Il m'invite à prendre un café, tout et tout, mais moi, je suis pas trop intéressée. Voilà. Non, je donne pas. Quoi? Je refuse. Et puis un jour, il y a un homme qui m'a. Un jour, il y a un homme qui m'a dit, est-ce que dans ma famille, il y a une personne ou une fille qui est comme moi exactement? Là, je me suis mise à rigoler, j'ai dit non, je suis unique. Et puis voilà, il m'a dit, est-ce que je peux t'inviter? J'ai dit non, je veux pas. Non. Et puis je suis partie. Ouais. Mais lui aussi, il était dans sa voiture en plein milieu de la route, donc il ne pouvait pas s'arrêter. Et puis il est parti, il a dit, c'est dommage.
Il a eu le coup de foudre, quoi. Il s'est arrêté, quoi, en pleine...
Oui.
Tu veux être toute seule, c'est pour ça que tu ne donnes pas ton numéro.
J'aime pas donner mon numéro à des inconnus. Parce qu'après, ça sera du dérangement, donc voilà.
Alors, elle n'est pas toute seule, Peggy. On va la retrouver avec une dizaine de personnes dans une création qui s'appelle Blanc. Ça dure 60 secondes et ces personnes résument leur vie en 5 mots.
Le Blanc.
Enfance. Félix. Mariage. Triste.
La seule noire parmi les blancs.
Oh.
Stressée.
Mohamed Bidar
Aïssarban. Ma fille. Triste. Violence.
Excision. Santé.
Stress.
Liberté.
Foyer.
Vivre en paix.
C'est ça.
La vie somalie, c'est la guerre.
Blanc.
C'est la peur. La France, c'est la paix.
Travail.
La liberté. La démocratie. Mais il faut courir, quoi, pour trouver des nouveaux tirs.
Alors, Peggy, qu'est-ce qu'on vient d'écouter?
C'est une création qui avait été produite par toi, Véro. Mais on vient d'écouter les femmes du CADA Saint-Jérôme, où elles ont résumé leur vie en 10 mots. Ce ne sont pas des phrases, c'était des mots, mais qui, quand on écoute, on a de l'émotion. Parce que chacun essaie d'expliquer sa vie, son vécu dans son pays avant d'arriver en France et même ses vécus ici en France.
Du vécu sous les parapluies, Anne et Peggy. Anne, est-ce qu'on t'a déjà dit bonjour? Non, pas encore.
J'ai fait cuit-cuit au début.
Ah
mais...
oui. Super cuit-cuit, je me souviens très bien, en la mineur. Cette marche des parapluies, la marche des réfugiés, comment c'était? Ils sont quelle couleur ces parapluies? Et pourquoi des parapluies?
Les parapluies, c'était en blanc. Tout était en blanc, les parapluies, et puis qui symbolisent la protection. On utilise les parapluies pour se protéger contre le soleil, contre la pluie. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut protéger les réfugiés.
Est-ce qu'il y avait du monde ?
Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde. C'était très joli la marche parce que tout le monde avait les parapluies et donc c'était vraiment joli.
Et Anne, quel slogan vous criez dans cette manifestation ?
Ce qui était fort, c'est qu'on ne criait pas de slogan justement. Et ça en faisait une très jolie manifestation parce qu'il n'y avait pas d'agressivité comme on peut ressentir parfois, même si les mots d'ordre sont justes, mais parfois il peut y avoir une forme de violence. Là, pas du tout. Tout le monde marche. En plus, il faisait très chaud, donc on marchait assez tranquillement, sauf Peggy qui était bien en tête. Et le slogan, il était écrit, c'est celui que Peggy vient de dire.
Il faut protéger les réfugiés.
Voilà, sur tous les grands parapluies blancs, il y avait Dan qui tenait un grand parapluie blanc lui aussi. Et les gens avançaient. Et voilà, le message était très clair. Et puis c'était l'occasion aussi de se connaître. Et nous, on a mangé des beignets que Peggy avait fabriqués. Délicieux.
Et moi, j'ai vu Plantin. Une photo avec une petite fille noire, avec des souliers blancs sous un immense parapluie avec lequel elle a joué pendant des demi-heures et des demi-heures. C'était Marcelina. Pourquoi tu bailles, Dipou, quand je parle ? Je t'ennuie ? Tu ne m'aimes pas ?
Oui, je t'aime. Oui, hein, je t'aime.
Ça y est, j'ai réussi à lui faire dire. Alors, autre manifestation. Oui. Vous nous excuserez, Blablamix, aujourd'hui c'est un peu dans le désordre. C'est la fin, c'est pour ça. Toi, tu allais à la Gay Pride.
Ok, oui.
Ok, et alors, pourquoi déjà ? Et qu'as-tu vu ?
Pourquoi c'est parce que quand j'étais au Bangladesh, ça m'a intéressé parce que je supporte les personnes qui sont gays, qui sont lesbiennes et tout.
Pardon, lesbiennes.
Lesbiennes, oui.
Lesbiennes descendues.
Mais oui, parce que au Bangladesh, j'ai pas vu comme Gay Pride. Il y a pas de Gay Pride comme ça. Il y a pas de manifestation. Tout le monde enquête pour parler, tout le monde, il y a problème pour parler, pour marcher, oui. Mm-hmm. Mais ça m'intéresse ici, oui. J'étais là, oui, je vois, ils sont vivants, c'est comme une fête.
Comme une fête ?
Une fête, ça dit qu'ici, il n'y a pas de problème. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ça.
Et tu as été pris en photo avec des personnes.
Oui.
Est-ce que tu peux décrire la photo ?
Il y a une phrase qui, I am gay, I'm lesbian, I'm bisexual, but I'm inhuman. Ça dit tout.
Ça dit tout.
Ouais.
And I'm a bicycle. Mais ça, c'était pas marqué non plus. Et juste, est-ce que tu peux décrire, hein, des gens qui n'ont jamais vu la Gay Pride, décrire une tenue ? Des vêtements qui t'ont marqué ?
Oui, les bâtiments jolis, oui. Avec beaucoup de couleurs, oui. Les couleurs de rainbow, oui. Oui.
Ok. Léna, toi qui es spécialiste dans le textile et la mode, oui. Comment était la Gay Pride cette année ? C'est les 40 ans d'ailleurs.
Oui, c'était super. En plus, il faisait pas trop chaud, donc c'était très agréable de marcher. Le parcours était plus court en plus que d'habitude, donc c'était moins fatigant. Et il y avait plein de monde, il y avait de la musique, tout le monde était joyeux, et criait des slogans et tout. Enfin, comme toujours, c'était encore super. J'ai pris un énorme coup de soleil, le plus gros coup de soleil de toute ma vie d'ailleurs.
Oh,
punaise, Léna. Ouais.
Mais une chose qui cette Gay Pride, il n'y a pas deux personnes seulement qui sont gays, qui sont lesbiennes, qui sont transgender. Il y a tout le monde. Il y a deux couples aussi, il y a deux straight, tout le monde qui
sont hétéro.
Oui, pas seulement gay, lesbienne. Non, il y a tout le monde. Oui.
Mais Léna, est-ce qu'il n'y aurait pas une. Souvent, il y a des travestis, des drag queens qui ont des tenues de folie, quoi. C'est quand même des costumes qui se fabriquent. Il n'y a pas moyen d'avoir une description ? Micro.
Je faisais partie d'un cortège, j'étais avec le collectif Déraciné en fait, et du coup c'était un cortège particulier qui était entre deux camions et tout, donc je suis restée là et j'ai pas beaucoup vu, je me suis pas beaucoup baladée en fait parmi les gens qui marchaient. Mais
Léna, elle est toujours entre deux camions de toute façon. Mais à la Gay Pride, on est tout le temps entre deux camions en même temps.
Certes, mais là, il y avait juste le cortège entre les deux camions, mais c'était vraiment. Du coup, c'était vraiment intéressant. On avait des pancartes, et d'ailleurs, on est sur beaucoup de photos grâce à nos pancartes. D'ailleurs, moi, j'avais une pancarte LGBT, support réfugiés, d'ailleurs.
Et c'est quoi, ces déracinés ?
En fait, c'est un collectif féministe, antiraciste, décolonial. Donc, en fait, c'était un cortège mixte. Donc, il y avait à la fois des personnes racisées et des personnes blanches. Et c'était vraiment super d'avoir pu faire partie de ce cortège, quoi.
Très bien. Dans un instant, je sens qu'il va y avoir un coup de gueule politique. Alors, nous partons chez des non-déracinés, des enracinés, des indéracinables, des Bretons avec Dénès.
It's a very old story, very old, very sad. Care out on a summer's day, met a magpie on the way. Magpie, what news can be so bad? Your morning song is oh so sad. The news is mad, it's the muse of which are you accused. I am no witch, I've done no bad, save for the seven loves I have. It's a very old story, very old and very sad. It's a a crime, you're right to say, but even so, let that be dead. But I already love a name. Johnny Smith from Meherebe. What's the news in Meherebe? In church, the laman is at pain. His missus dead is dead. During the mass where he was well. La 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 la
Gérard Collomb. Vous l'avez dit clairement vendredi, l'État ne s'occupera pas des quelques centaines de migrants actuellement présents à Calais au nom du risque d'appel d'air. Pas question d'ouvrir un centre d'accueil, avez-vous affirmé. Alors attention, il ne faudrait pas croire que vous restez inactif. Vous avez annoncé l'envoi sur place de 2 compagnies mobiles supplémentaires, ce qui va porter à 700 l'effectif des forces de l'ordre sur place. De quoi continuer correctement à empêcher les associations de nourrir les migrants et surtout de leur donner à boire en ces temps de canicule. Ben oui, il ne faut surtout pas créer d'abcès de fixation, car c'est bien connu, monsieur Collomb.
Collomb.
tous ces migrants quittent l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan ou l'Afghanistan, le cœur léger, poussé par le seul objectif de profiter des largesses de l'État français, ces pays étant, comme chacun sait, tout à fait démocratiques et pacifiés. Les exilés partent en se disant qu'à Calais, un centre d'accueil les attend. Alors, s'il n'y a pas de centre d'accueil, ils resteront chez eux et supporteront sans problème les régimes dictatoriaux et les menaces de mort ou de torture qui pèsent sur eux. Et ceux qui sont déjà en France, eh ben, vous voulez qu'ils aillent ailleurs qu'à Calais, dans d'autres pays d'Europe, pour les fameux Dublinés, ou ailleurs en France, dans les CAO, ouverts lors du démantèlement de la jungle, ou dans les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile existant partout en France. Mais monsieur Colomb... Comme vous le savez sans doute, il n'y a pas de place dans les CADA. Près de la moitié des demandeurs d'asile en France n'ont pas de place d'hébergement. Pour les plus chanceux, ils sont logés par des compatriotes ou des familles françaises. Et puis pour les autres, eh bien, c'est la rue. À Lyon, sur les 2000 personnes vivant à la rue, comme vous le savez très bien, monsieur Colomb. Beaucoup sont des demandeurs d'asile. Vous nous racontez des histoires à dormir debout, monsieur Colomb. Et pour un responsable politique de votre niveau, un ministre de l'Intérieur, dans un gouvernement qui veut en plus moraliser la vie politique, ce n'est pas très bien ça, monsieur Colomb. Alors, cher Gérard Colomb... Mais j'ai pas fini. Monsieur Colomb, mais c'est important. Et alors mais je peux lui parler quand même. Je peux parler au ministre de l'Intérieur.
Stop.
Fashion. Hello, Léna Colomb.
Non.
Tu as mal au colon?
Un peu depuis que je me suis assise là.
Nous t'écoutons, Léna.
Oui, alors aujourd'hui, je voulais parler du maillot de bain parce que, comme chacun le sait, il fait extrêmement chaud et du coup, c'est l'occasion parfaite de parler de ça. Tout le monde a envie de se baigner. Du coup, j'avais envie de retracer un petit peu l'histoire du maillot de bain assez rapidement. Donc en fait, finalement, le maillot de bain tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est arrivé de cette façon-là assez tard puisque dans l'Antiquité, les gens n'en portaient pas. Ils se baignaient nus, en fait, dans les bains publics et les maillots de bain n'existaient pas. Ensuite, un peu plus tard, dans l'histoire, au Moyen-Âge, les gens se baignaient en chemise en fait, en grande chemise blanche, et en fait finalement il y avait peu de gens qui se baignaient parce que les gens croyaient que c'était par l'eau que se transmettaient les maladies, donc en fait les médecins préconisaient de ne pas se laver et de ne pas se baigner. Après, un peu plus tard, donc au XXe siècle, on a les bains de mer qui ont commencé à être préconisés par les médecins, etc. Et à ce moment-là, le corps médical a préconisé un costume bouffant en laine. Ça devait être extrêmement pratique pour se baigner. Et un bonnet, parce qu'apparemment, c'était plus confortable. Après, un peu plus tard, on a le bikini qui est apparu donc dans les années 40-50. Et dans les années 80, avec l'influence du surf, on a le caleçon long pour hommes qui est apparu à son tour. Et voilà, ces deux formes de maillots sont un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui encore. Même si aujourd'hui, il y a plein de formes et de couleurs et de motifs qui existent à tous les prix, avec tous les motifs, etc. Et du coup, j'avais envie de m'intéresser un petit peu à comment ça se passait à ce niveau-là dans d'autres pays. Et c'est pour ça que, Peggy, j'avais envie de te demander, en Centrafrique, quel type de maillot de bain est-ce que les gens portaient quand ils se baignent?
En Centrafrique, on n'a pas la mer. C'est un pays enclavé d'abord, mais on a un grand fleuve où le maire du pays a essayé de
transformer.
Il est partout.
de transformer en plage artificielle. Donc on a mis des sables, tout et tout, mais les gens ne se baignent pas beaucoup. Et donc en Centrafrique aussi, pour se baigner, les gens mettent des maillots de bain, comme ici. Soit c'est en deux pièces, donc la culotte et le soutien, soit c'est en une pièce. Ouais. Donc c'est exactement comme ici.
Et mais où est-ce qu'ils les achètent, ces maillots?
On les achète dans les magasins. On en vend dans les magasins, les prêt-à-porter surtout. Oui.
Ou et alors chez le boucher, mais ça dépend.
Ça pourrait être, il y a plein de façons différentes. Il y en a qui achètent sur internet, ou je sais pas, ou il pourrait y avoir des créateurs aussi de maillots de bain. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a en Centrafrique?
Des créateurs de maillots de bain en Centrafrique, il n'y en a pas.
Ouais.
Et il n'y a pas une usine qui fabrique ça sur place, donc on achète ça de l'extérieur. Donc les vendeurs, ils partent en Europe, ils achètent et puis ils partent revendre ça là-bas.
Schumann, est-ce que tu portes des maillots de bain? Non. Il est en maillot de bain d'ailleurs. Exactement. Car il fait assez chaud dans le studio, Léna.
Moi j'avais encore une question pour Peggy. Tu disais que le maire avait transformé la rivière en plage et que pourtant les gens ne se baignaient pas. Comment ça se fait? J'imagine qu'il fait assez chaud en plus. Pourquoi les gens ne se baignent pas?
Oui, il fait assez chaud là-bas, oui. Les gens n'aiment pas trop se baigner parce que le fleuve qui a été transformé en plage artificielle, c'est un peu profond. Et donc c'est souvent les jeunes qui vont là-bas pour se baigner. Mais bon, on constate aussi parfois des accidents. Mais sinon, il y a des piscines dans des hôtels, mm-hmm, qui se situent beaucoup plus au centre-ville.